Bonsoir. Le projet de budget 2015 a été jugé recevable au cours de la plénière d'hier mercredi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo propose un budget chiffré à 9 milliards de dollars, dont les recettes proviennent à 79% de ressources internes et à 21% de ressources extérieures. Quelle analyse faire de ce budget et quel pourrait être son impact sur le social des Congolais? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Comme invité, je reçois Honorable Jean-Baptiste Koumassamba, député national de la majorité présidentielle et vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Honorable.
Bonsoir, Monsieur Alain.
Honorable José Nzaouvola, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire UDPS et Ali à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Honorable.
Bonsoir.
Israël Moutala, journaliste à Géopolis, magazine économique des activités extractives. Il est aussi analyste économique et politique. Bonsoir, Monsieur Moutala.
Bonsoir.
Bonsoir une fois de plus et merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le projet de budget 2015 a été jugé recevable hier mercredi à l'Assemblée nationale. Vous le savez, ce projet est de l'ordre de 9 milliards de dollars. Mais quelles en sont les principales affectations? Berry Franklin Louchakra.
Après avoir été jugé recevable, le projet de budget 2015 a été envoyé à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale pour des réajustements. Concernant les affectations, le compte-rendu du gouvernement du 20 septembre dernier révèle qu'en ce qui est de la défense, le projet de budget prévoit 5,5%, alors que pour les élections, 3,7% du budget a été alloué et la santé obtient 10,8%. Le secteur de l'enseignement primaire et secondaire et du transport ne sont pas épargnés. Cependant, aucun montant n'est défini pour ces derniers. Toujours dans le compte rendu du gouvernement du 20 septembre, le budget 2015 prévoit 200 000 milliards de francs congolais, soit plus de 200 millions de dollars américains affectés à la CENI pour l'organisation des élections provinciales, municipales et locales. On rappelle que la CENI a besoin de plus de 470 millions de dollars américains pour ce faire. Du point de vue social, ce budget prévoit 34,6 milliards de francs congolais, soit plus de 36 millions de dollars en matière de politique salariale des fonctionnaires de l'État. Il s'y est de noter que ce projet de budget a été sévèrement critiqué par les députés, surtout en ce qui est de la mobilisation des ressources internes, tenant compte du dernier rapport de la Cour des comptes. Le Premier ministre répond.
Je voudrais vous rassurer, honorables députés, que les inquiétudes ici exprimées par votre auguste assemblée préoccupent aussi le gouvernement dans la mesure où du niveau des recettes dépend la capacité de l'État à rencontrer les multiples besoins de la nation en termes notamment de la sécurité et de développement économique et social, tel que du reste reflété dans le PAG qui a prévu des recettes de près de 48 milliards de dollars américains étalés sur 5 ans de mandature. À ce sujet, le gouvernement déploie des efforts pour répondre néanmoins à cet impératif.
Selon certains élus du peuple, bien qu'étant revu à la hausse, ce projet de budget est loin d'apporter des solutions au social des Congolais.
Merci Mary Franklin Louchaka, honorable Jean-Baptiste Koumassamba. Vous êtes député national de la majorité présidentielle et vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. À deux reprises, vous avez reçu le Premier ministre honorable. La première fois, c'était lorsqu'il présentait le projet. La deuxième fois, il est venu répondre à vos préoccupations. De façon générale, pour commencer, dans quelle ambiance se sont déroulées ces plénières?
Oui, les plénières se sont déroulées dans une ambiance démocratique et je crois que tous les députés se sont exprimés. Ils ont soulevé d'importantes préoccupations qui sont les attentes de la population et le Premier ministre y a apporté des réponses satisfaisante, raison pour laquelle l'Assemblée nationale a jugé ce projet de loi de finances pour l'exercice 2015 recevable.
Alors, honorable, ce projet de budget, on le disait, s'élève à 9 milliards de dollars. Peut-on parler d'innovation dans ce projet de budget?
Oui. Pour répondre à votre question, je voudrais que l'on comprenne d'abord que le nouveau cadre budgétaire qui est le nôtre est fixé par la loi relative aux finances publiques,
la LOFIP.
Et c'est cette loi-là qui fixe les règles relatives à l'élaboration, à l'examen, au vote, à l'exécution et au contrôle du budget. Et comme vous le savez, à son investiture, le gouvernement a présenté un programme d'action. Parce qu'en fait, le nouveau cadre budgétaire actuel de notre pays repose sur une budgétisation programmatique. C'est-à-dire, on doit allouer les ressources rares, qui ne sont même pas suffisantes, au programme de l'État. Alors, les axes de ce programme sont connus. Et à l'examen du projet de loi de finances qui est sous examen présentement, nous constatons que le gouvernement a programmé certaines actions, dont les actions prioritaires, qui cadrent avec son programme d'action.
Alors, est-ce qu'on peut déjà parler, voir l'aspect affectation, par exemple pour l'armée, il y a les élections qui seront bientôt là, il y a le recensement, est-ce qu'il y a... Vous pouvez nous parler de ces différentes affectations?
Oui, les affectations se rapportent d'abord... au rétablissement de la paix et au renforcement de l'autorité de l'État. Donc, ce qui conduit à d'importantes réformes institutionnelles. Et cet axe-là prend quand même une quotité importante. Il y a également la consolidation du cadre macroéconomique, parce que vous savez, c'est une condition sine qua non pour le développement d'un pays. Il faut un certain cadrage, donc une certaine stabilité macroéconomique qui va permettre une accélération de la croissance et la création des emplois.
Et cela passe par quoi ?
Oui, cela passe par la maîtrise des indicateurs économiques. Et je voudrais ici avancer quelques-uns de ces indicateurs. Il y a la maîtrise de l'inflation. Et aujourd'hui, les taux d'inflation dans notre pays se situent à voisine zéro. Donc, c'est une première. Il y a aussi le taux de change qu'il faut maîtriser pour éviter les fluctuations monétaires qui risqueraient d'entraîner l'inflation. Donc, ce sont là quelques éléments parmi tant d'autres. Je voulais dire aussi que l'affectation tient compte de la nécessité de construire et de moderniser les infrastructures de base, notamment le route, les infrastructures hydroélectriques qui vont permettre à la population d'avoir l'énergie. L'affectation tient compte également du cadre de l'amélioration du cadre de vie et du social de la population. Et dans l'introduction, vous avez parlé de la politique salariale. Donc, la rationalisation de la politique salariale des fonctionnaires et agents de l'État. L'affectation des ressources tient compte aussi du renforcement de la diplomatie. Donc, notre pays s'engage ou s'est engagé dans une nouvelle façon de faire sa diplomatie pour redorer le blason, retrouver sa place sur l'échiquier international. Il y a aussi le renforcement du capital humain à travers l'éducation, par exemple. Il faut éduquer, il faut renforcer les systèmes éducatifs pour que la population soit formée. C'est un facteur important du développement.
Et donc, la grande partie de ce budget tourne autour, c'est la sécurité qui occupe la grande partie.
Oui, il y a une bonne partie dans la sécurité, une autre dans les réformes institutionnelles, une autre encore dans l'amélioration du cadre de vie et du social de la population.
Et donc, 9 milliards de dollars par rapport au budget de l'exercice passé, honorable, c'est qu'il y a une évolution.
Bon, en fait, je dois reconnaître ici la modicité du budget de la RDC. Mais ça, il faut voir l'évolution du budget. Il faut qu'on essaye de se mettre dans un rétroviseur pour voir d'où nous venons où nous allons. Donc il y a peu, on avait des budgets d'environ 1 milliard et maintenant nous avons atteint 9 milliards. C'est pas encore assez, mais par rapport aux projections, on est
connu. On est quelque part.
Oui.
Honorable José Nza Ouvola, vous êtes député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. La même question pour vous, les deux plénières où vous avez reçu le Premier ministre, dans quelle ambiance ça s'est passé? Vous avez suivi l'honorable Kouma Samba qui a estimé que c'était dans une ambiance démocratique. Le Premier ministre a apporté des réponses satisfaisantes. Quel est votre avis?
Oui, en fait, il dit que c'est dans une ambiance démocratique par le fait qu'il y a eu, cet échange entre nous et le gouvernement. Mais je peux vous dire sincèrement, vous avez suivi la réponse du Premier ministre. Il dit que nos préoccupations sont aussi les préoccupations du gouvernement. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement un aveu d'impuissance. Parce que nous avons relevé, lors du débat du budget, nous avons relevé d'abord que c'était un budget qui n'était pas sincère. Parce qu'en fait, un budget, c'est un instrument de gestion par excellence. Donc, si on veut gérer d'une manière, de la manière la plus saine, la nation congolaise, on doit présenter un budget qui reflète la réalité, n'est-ce pas? Mais malheureusement pour nous, le budget nous présenté par les gouvernements ne reflète pas la réalité. Mais la première de réalité, c'est laquelle? Nous pouvons regarder dans le rétroviseur. Nous avons voté le budget 2013 parce que c'est l'année civile qui est finie. Le budget 2013, quand vous regardez la réalisation, la recette, on n'a pas dépassé les 60% de réalisation. On a projeté on a voté le budget 2014 sans tenir compte de cette donne-là. Et si vous regardez la réalisation mise vers fin juin 2014 par rapport au budget en cours, vous remarquerez que les réalisations sont aussi très faibles. Donc, par rapport à cette donne-là, on ne pouvait pas projeter un budget de 9 milliards quand on sait qu'on est incapable de mobiliser ne fût-ce que 6 milliards de dollars. Voilà pourquoi, quand on doit tabler la gestion, on doit avoir pour soubassement un budget qui ne tient pas compte de la réalité du pays, je pense que le peuple congolais ici ne trouvera jamais son compte. Parce que le budget de 9 milliards n'atteindra même pas 6 milliards de recettes recouvrées.
Alors, le Premier ministre dit que ce budget, les recettes proviendraient de 69%, 79% en interne et puis 21% des ressources extérieures. C'est assez paradoxal quand on sait que souvent, la grande partie du budget dépend des partenaires.
Non. Pas. En réalité, le partenaire ne nous donne presque plus rien.
Actuellement.
Oui, c'est-à-dire tout ce que nous prévoyons souvent dans nos budgets, nous prévoyons que le partenaire nous donne par exemple 2 milliards de dollars, mais au finish, il nous donne 400 millions. Il nous donne 380 millions. C'est d'ailleurs la question qui était posée au Premier ministre. Pour dire, mais comment toi tu sais que le partenaire ne nous donne pas assez de moyens, mais tu viens avec un budget où tu leur donnes une part aussi importante de 21%. Et dans ses réponses, vous pouvez suivre son discours, nulle part il a répondu à cette question-là. Donc ça prouve une fois de plus que c'est un budget qui n'est pas réaliste.
Alors, mais quand la RDC est aujourd'hui en mesure de pratiquement se prendre en charge, tant bien que mal, comme disait l'honorable Kouma Samba, ne pensez-vous pas qu'il y a des efforts qui ont été fournis?
Je pense que nous ne pouvons pas déduire dans ce sens-là. Parce que je viens de vous dire que c'est un budget irréaliste, n'est-ce pas? On gonfle des chiffres.
À la limite fantaisiste.
Bon, je vous concède le mot. C'est-à-dire, on dit non, notre budget est de 9 milliards. Je me demande, on veut plaire à qui? N'est-ce pas? On veut plaire à qui pour dire qu'un budget de 9 milliards alors qu'on ne sera jamais capable de réaliser ces 9 milliards-là. On dit non, l'extérieur nous donnera autant alors que nous savons que l'extérieur ne nous donne pas ces moyens-là. Alors vous dites, mais puisque l'extérieur ne nous donne plus assez de moyens, ça signifie que nous travaillons avec nos propres moyens, ça signifie tout simplement qu'il y a
des efforts qui sont fournis.
Mais moi je vous dis que les efforts, nous dirons qu'il y aurait des efforts fournis si sur le 9 milliards par exemple prévu, nous pouvons réaliser ne fût-ce que 7 milliards et demi, 8 milliards. Je dirais qu'en ce moment-là, que les efforts sont fournis. Mais regardez la République démocratique du Congo, c'est un sous-continent par rapport à son étendue, par rapport à sa population, n'est-ce pas? Regardez tout autour de nous, l'Angola, le Congo-Brazza, le Gabon, et je ne cite pas le pays de l'Est, vous verrez comment eux, avec des espaces peu consistants, mais avec des populations qui n'avoisinent même pas la population de Kinshasa, mais qui ont des budgets costauds. Donc ça prouve à suffisance que la population congolaise, comme nous le cessons de le dire, ne trouvera jamais son compte dans de telles prévisions budgétaires. Oui, c'est-à-dire la population congolaise ne doit pas penser qu'avec de tels budgets,
ça ira mieux demain.
Israël
Moutala, vous êtes journaliste à Géopolis, magazine économique des activités extractives. Vous êtes également analyste économique et politique. Vous avez suivi les honorables députés. Quelle est votre analyse à ce niveau par rapport à ce projet de budget qui a été jugé recevable à l'Assemblée nationale?
Merci de la question. J'ai noté que le budget a été... Ce qui m'intéresse le plus, c'est la mobilisation de ressources internes. Donc, dans le projet de budget déposé à l'Assemblée nationale, les ressources internes sont évaluées à peu près à 7 milliards de dollars. Ce qui représente à peu près 79% de la globalité de ressources projeté à mobiliser. Je remarque, mais là je m'interroge sur une chose, comment va-t-on passer en 2013 à peu près 4 milliards de dollars de ressources internes, en 2014, je crois, parce que j'ai vu la loi de finances, le rapport sur la mobilisation et l'exécution du budget 2014 au premier semestre de l'année 2014, nous serons à peu près, si je suis optimiste, à 5 milliards de dollars de mobilisation, à 4 milliards et demi de mobilisation de ressources internes, si je suis optimiste. Donc, je parle en termes de dollars pour qu'on se comprenne bien. 2013, sur toute l'année, la RDC, le gouvernement central, a mobilisé 4 milliards de dollars. 2014, selon les projections, on sera, si on est optimiste, à 4 milliards et demi. Donc si je suis encore hyper optimiste, nous serons à 5 milliards de dollars. 2015, les prévisions sont d'à peu près 7 milliards de dollars de mobilisation. Je ne parle pas de ressources externes. Parce que les ressources externes ne viendront qu'en compte-gouttes. Je rappelle ici que nous ne sommes pas en programme avec le Fonds monétaire international. Il n'y a pas de coopération structurelle. Le problème Gécamines continue à poser problème. Donc dans ce budget, il n'y a pas d'appui budgétaire des institutions de Bretton Woods. Ce qui montre encore que le problème Gécamines se pose. Et avec l'incident qu'il y a eu avec l'ADG suspendue, donc la Gécamines constitue encore un problème. Et ça se reflète dans le budget parce qu'il n'y a pas d'appui budgétaire du FMI notamment. Et donc, j'essaie de m'interroger comment va-t-on passer d'à peu près 4 milliards et demi de dollars en 2014 pour faire le bond de 7 milliards de dollars de mobilisation en termes de ressources internes en 2015.
C'est irréaliste.
C'est impossible. C'est impossible. Bon, je sais que en 2015, la plupart des miniers vont voir les amortissements accélérés, la constitution des réserves et d'autres fonds qui grévaient justement les profits et l'impôt sur le bénéfice. Je crois qu'ils vont dégager des marges et ils vont payer des impôts conséquents. Même dans cette hypothèse-là, au cours actuel du cuivre, et encore là, jeudi, nous partons du fait que le cours de cuivre reste tout autour de 7000 à 7500 la tonne.
Et pourquoi c'est impossible, Israël Moutala?
C'est impossible parce que en matière de mobilisation, pour mobiliser les ressources, il faut que l'État d'abord investisse dans les instruments qu'il a, DGI, DGRAD, DGDA, et tout ça. Il faut qu'il investisse dans son administration, que les gens soient formés, que les gens soient outillés, que les gens soient motivés. Bref, il faut un déploiement. Donc ça veut dire que même pour récolter un franc congolais, il faut au préalable dépenser de l'argent. L'argent ne se mobilise pas tout seul. Il se mobilise avec des hommes, avec des institutions, avec des administrations, bref, avec toute une logistique informatique et tout ça, avec des lois. On a parlé d'Alofib, c'est une nouvelle loi. Il faut une culture, justement, de la mobilisation des recettes. Il faut une culture du civisme. Donc voilà, il y a encore des difficultés. L'incivisme fiscal chez les députés provinciaux notamment qui ne veulent pas payer l'impôt sur leurs revenus. Bon, ils se sont bien inspirés des députés nationaux qui ont fait, qui ont refusé pendant de longues années avant de se soumettre à cet exercice de civilité fiscale. Bref, donc il faut un grand travail. Et il faut que la TVA qui avait été annoncée aussi justement comme un impôt phare, un impôt révolutionnaire, justement, elle donne des résultats satisfaisants, mais pas de manière à créer ce point critique de non-retour ou de mobilisation tous azimuts de ressources.
Alors, vous parlez de l'absence d'une culture fiscale, mais on se souvient aussi que le Premier ministre a reconnu des problèmes de gestion, le coût la G7, tout ça, c'est quand même assez compliqué.
Mais justement, alors là, pour justement, j'aimerais quand même aussi ici partir du fait que le PIB est estimé à 40 milliards de dollars. C'est un chiffre clé. Et donc, si nous estimons qu'à peu près que notre pression fiscale doit osciller entre 10 ou 20%, bon, perdons 20%, si nous avons une pression fiscale, la moyenne africaine, c'est autour de 30%. Entre 25 et 30% la moyenne de la pression fiscale. Si nous rentrons ici, que nous disons, voilà, notre pression fiscale est de 20% à peu près, donc je pense que sur 4 milliards, sur 40 milliards de dollars de PIB en 2015, on doit mobiliser normalement 8 milliards, c'est le minimum partant du chiffre avancé par le Premier ministre sur le PIB. Et là encore, il y a un débat. Comment a-t-on calculé le PIB? Mais ça, c'est notre débat. Comment a-t-on calculé le PIB?
Donc, il y a des problèmes même dans les chiffres, dans les statistiques.
Même dans les chiffres. Mais bon, je pars de cette hypothèse, hein, voilà. Que avant ces 40 milliards de PIB, c'est une façon d'évaluer notre richesse nationale. Donc, si nous sommes à 40 milliards de dollars, donc en principe, si nous avons une pression fiscale la plus minimaliste possible à 20%, donc on doit être en principe à 8 milliards de dollars de mobilisation de ressources internes. Mais pour y arriver...
Merci.
Il faut, comme je l'ai dit, beaucoup de sérieux et dans la mobilisation de recettes.
Honorable Kouma Samba, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient d'Afrique du Sud.
Ingénieur Josaphat Kajimoto, depuis Durban. Vu la superficie et le nombre de la population de la RDC, jugez recevable ce budget et comme après avoir chargé un camion de 8 tonnes, on veut les tirer avec une voiture de course. Moi, je pense, avec une bonne volonté animée par l'amour de la patrie, sans présenter nos idées égoïstes, nous pouvons faire mieux que ça, dans la transparence et la dignité. C'est le moment où jamais les députés doivent exprimer leur volonté, démontrer à leurs électeurs qu'ils sont là pour représenter le peuple et son bien-être. Tant que le social du Congolais sera toujours menacé, nous ne parlerons jamais d'un budget honorable.
Honorable Kouma Samba.
Oui, merci. Je suis d'accord avec notre compatriote dans une certaine mesure, parce que les défis à relever sont énormes. Et ça, le gouvernement est conscient. Et cela demande un choc culturel, comme l'a dit
Israël.
Ça demande un choc culturel. Et ce choc culturel, c'est une affaire de tous les Congolais. Parce que moi, je voudrais que les gens comprennent. Il y a les potentialités qu'il faut transformer en richesse. Parce qu'assez souvent, les gens disent, nous sommes potentiellement riches. Oui, mais nous devons tous ensemble avoir la capacité de transformer ces potentialités en richesse utilisable pour les pays. Alors, la recevabilité du budget, que ça dit ? Le programme public sont menés par le gouvernement. Et le gouvernement les traduit chaque année en termes chiffrés dans ce que nous appelons la loi des finances. En tant qu'autorité budgétaire, le Parlement se doit d'examiner, donc de prendre d'abord les propositions, le projet qui vient du gouvernement, l'enrichir. Et le compatriote doit comprendre que le processus budgétaire, c'est un processus participatif. Donc, le civisme fiscal dont on a parlé ici, ce n'est pas l'affaire seule du gouvernement. Le Congolais doit d'abord comprendre qu'il doit payer l'impôt, que cet impôt va permettre au gouvernement d'avoir le moyen de mener ses actions. Et l'avantage de la nouvelle façon de présenter le budget est que il n'y a pas que de chiffres, mais il y a aussi les mesures fiscales et les mesures de gestion qui accompagnent le projet. Le Premier ministre l'a reconnu. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Par exemple, le réajustement de l'application de la TVA. Il faut réajuster la manière d'appliquer la TVA. Il faut rationaliser la manière de traiter les contentieux fiscaux, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui n'est pas recouvré. Donc il y a pas mal de choses. Le secteur minier, nous avons un code minier qui avait accordé un certain nombre d'avantages aux entreprises ou aux sociétés œuvrant dans ce secteur. Et le gouvernement reconnaît qu'il faut revisiter ces codes miniers parce que c'est un secteur porteur de croissance, mais qui n'est pas totalement fiscalisé. Voilà, c'est cet exercice-là auquel nous devons nous habituer pour qu'ensemble nous arrivions à améliorer la qualité de nos prévisions.
Mais honorable, vous avez suivi l'honorable José Nzao qui a utilisé l'adjectif irréaliste, c'est un budget irréaliste, et donc pour lui, le peuple congolais ne peut pas espérer que demain ça ira mieux.
Non, le peuple congolais doit avoir de l'espoir, monsieur Alain. Il doit avoir de l'espoir. Je voudrais vraiment répliquer pour dire qu'un budget, c'est un acte de prévision. C'est un acte de prévision, et d'après le principe posé par la loi relative aux finances publiques, cet acte de prévision doit s'accompagner des performances, des résultats qui doivent se mesurer à la fin. Donc c'est un acte de prévision. Je ne voudrais pas aller dans le même sens que mon co-débatteur sur le problème de réalisme. Le Premier ministre a reconnu un certain nombre d'éléments, de facteurs qui font que la réalisation ne puisse pas atteindre le niveau de prévision. Ça, c'est vrai. Mais à ce problème de réalisme et de prévision, il faut associer la volonté du gouvernement à faire mieux. Donc nous ne pouvons pas empêcher au gouvernement cet engagement, cette volonté-là à accroître la mobilisation des recettes pour faire face aux multiples défis qui sont à relever par rapport aux attentes de la population.
Or, il semblerait, selon certains observateurs, honorable Koumassamba, que la majorité, vous n'aidez pas le gouvernement parce que vous ne sanctionnez pas.
Bon, en fait, c'est vrai. Je me mets toujours dans le cadre du cadre budgétaire actuel. Parce que notre cadre budgétaire actuel comprend trois lois de finances. Il y a la loi de finances de l'exercice que nous appelons budget. Il y a les lois de finances rectificatives qui permettent au gouvernement, au cours de l'exécution du budget, de solliciter des modifications dans l'exécution du budget. Il y a la loi de règlement budgétaire que nous appelons généralement la loi portant reddition des comptes. Mais dans ce cheminement-là, je vous ai dit, il faut un choc culturel parce que tous les acteurs doivent jouer leur rôle. Le gouvernement qui élabore le budget, le Parlement qui contrôle et ainsi de suite.
L'aspect participatif.
Voilà.
Honorable Nzao, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient du Nord Kivu.
Mukuli Mupenda Dieudonné à Goma. Nous encourageons le Premier ministre Matata Ponyo, car notre budget commence déjà à connaître une croissance presque régulière. Et ce qui semblerait être difficile, c'est la gestion et encore plus difficile l'inadéquation entre ces croissances budgétaires avec la vie sociale de la population. Car non seulement la vie de la population qui est prioritaire, mais également la structure et les infrastructures peuvent aussi être sérieusement améliorées.
Réaction honorable, Nza.
Oui, mais il dit une chose et son contraire. Il dit qu'il félicite le Premier ministre parce qu'il y a accroissement du budget. Et puis après, il dit qu'il y a une inadéquation entre l'accroissement et la vie sociale de la population. C'est là où nous disons qu'on peut accroître le chiffre sur papier. Un chiffre sur papier ne peut en aucun cas venir booster la vie de la population.
Il restera sur papier.
Ça restera sur papier. Nous avons eu l'occasion de le démontrer carte sur table lors du débat. Mon cher frère, vous devez savoir que la majorité se cache derrière, parce que c'est une astuce qu'ils avancent de temps en temps pour dire que nous sommes effectivement potentiellement riches, mais nous devons transformer ces potentialités en richesse. Mais moi, j'aimerais leur demander, parce que de temps en temps, ils se réunissent dans la sous-région avec les voisins. Les voisins de l'Angola, les voisins du Congo-Brazza, les voisins d'autres pays. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas poser la question aux autres? Comment eux, en tant que gouvernement de ces États-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour transformer leur potentialité? Est-ce qu'il appartient à la population de transformer les potentialités que nous avons en richesse? Ou c'est le gouvernement qui doit édicter une certaine ligne de conduite, et à partir de cette ligne de conduite-là, avec une certaine volonté politique, n'est-ce pas, qu'on peut transformer les potentialités que nous avons en richesse.
Et donc, pour vous, c'est un problème de volonté politique, comme vous l'avez dit, ou de mauvaise foi?
Mais c'est un problème, le manque de volonté politique et de mauvaise foi, parce que...
Les deux.
Les deux, parce que nous savons tous que... le grande potentialité que nous avons, ce sont les minerais. Nous savons tous que les minerais sont en train d'être exploités présentement. Nous savons tous que nous réalisons, n'est-ce pas, dans l'exploitation, des records qu'on n'a jamais réalisés par le passé. Et que les cours, n'est-ce pas, au niveau international de minerais, est à un niveau vraiment... vraiment très acceptable, n'est-ce pas? Mais, en retour, on ne sent pas l'impact de ces secteurs-là dans le budget. On ne sent pas l'impact de ces secteurs-là dans la création des richesses. Maintenant, le collègue nous dit, non, nous devons transformer nos potentialités en richesses. Mais est-ce qu'il vous appartient à vous de transformer les potentialités en richesses? Il appartient à ce frère qui nous appelait de Goma de transformer les potentialités en richesse, où il appartient au gouvernement de la République de transformer ces potentialités en richesse.
Alors, honorable, dans votre précédente intervention, vous avez affirmé que le peuple, que ce projet, ce budget n'aura aucun impact sur le social des Congolais. Là, n'êtes-vous pas en train d'effrayer le peuple congolais qui nous suit, ou vous êtes en train de lui dire la vérité?
Non, c'est une vérité. Vous savez, c'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais ici, en tant qu'acteur politique, n'est-ce pas, nous sommes obligés de dire la vérité à notre population. Et ce n'est pas la première fois que nous le disons. Nous le disons depuis toujours. Peut-être les gens, quand on le disait par le passé, ne nous croyaient pas. Mais maintenant, du moins, ils peuvent nous croire. Parce que, je viens de vous le dire, les chiffres sur papier ne peuvent rien arranger. Parce que par le passé, nous avons vu, on nous a donné des chiffres pour un budget, mais dans la réalisation, on n'a pas atteint les 60%.
Il y a Alain Botoko qui nous écrit de Kinshasa qui dit « Le social sera le dernier souci dans la réalisation du budget 2015, car le pays n'a jamais vu naître autant d'institutions, cours constitutionnelles, cours de cassation, ONIP et d'autres qui sont et qui viendront, car les chômeurs politiques se comptent en millions, qui auront à consommer des millions dans leur fonctionnement, sans oublier les pouvoirs exécutifs et législatifs, qui consomment à eux seuls plus de la moitié du budget. Serrons nos ceintures, mes frères et sœurs congolais. » Comment vous analysez cet aspect?
Oui, mais il a totalement raison, parce que quand vous voyez l'exécution, dans l'exécution de nos budgets, c'est plus le fonctionnement des institutions, n'est-ce pas? Tout ce qui est investissement, c'est relégué au calendrier grec. Donc, pour les gouvernements, n'est-ce pas? On n'investit pas. Mais dites-moi, dans un pays où on ne finance pas l'investissement, mais vous, on veut apporter à manger à la population comment? Dans un pays où on n'arrange pas les routes, vous avez suivi l'intervenant de Goma. Il dit que les routes ne font que se détériorer. Dans un pays où on n'arrange pas les routes, on peut évacuer ne fût-ce que le peu que la population cultive comment. Donc, je pense sincèrement, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, c'est maintenant que nous devons nous arrêter, nous regarder dans le miroir, prendre une décision pour dire fini avec cette mauvaise politique. Je l'ai appelé la politique de la croissance appauvrissante. J'ai dit, nous devons mettre une croix à cette politique-là pour une option qui fera que le peuple se retrouve dans la gestion quotidienne de la chose publique.
Israël Moutala, il y a cette réaction qui nous vient de Mouenéditou pour vous.
Bernard Kazagi, depuis Mouenéditou, moi je me suis toujours posé cette question. Il y a égard budget, je me demande nos dirigeants. Est-ce qu'ils vivent réellement ici au Congo? Ils n'ont pas cette culture-là de démissionner quand les choses ne marchent pas.
Israël Moutala, c'est une question qui revient souvent.
Oui, c'est une question qui revient souvent, je ne m'en cache pas. On n'a pas la culture de la démission. Ici, j'y suis, j'y reste. Bon, je ne vais pas revenir sur le débat sur la révision constitutionnelle qui en dit long déjà sur cette culture congolaise. Condamnable, mais j'aimerais revenir au budget, parce que si le thème de l'émission, comme on l'a dit, c'est ce budget et son impact sur le social des Congolais. Effectivement, on ne peut rien faire avec un budget aussi petit. Donc, il n'y a pas assez de richesses. On n'a pas assez créé de richesses. On n'a pas un outil administratif assez performant pour justement comptabiliser chaque richesse créée et prélever ce qui est dû à l'État. Et on n'a pas les meilleurs circuits pour que chaque franc congolais soit investi avec le maximum de précaution, de sérieux et de rentabilité. On n'a pas ces institutions pour le moment. Et donc, on parle ici de la culture fiscale. Elle devait commencer à la commune. Est-ce que nos communes ont des budgets? Ils sont vulgarisés? Comment sont-ils exécutés? Comment sont-ils contrôlés? C'est ça.
Et là, c'est la décentralisation.
Mais justement, il faut que le pouvoir politique, là, la tête soit suffisamment éclairée et éclairante pour qu'elle se diffuse sur l'ensemble des institutions, de tous les pouvoirs politiques. Le jour où il y aura un sérieux de la base au sommet, ça veut dire qu'il y a des budgets. C'est là que la culture budgétaire va commencer. Les bourgmestres ne feront plus n'importe quoi. Ils ont quelles taxes? Comment les utilisent-elles? Et la question ici, on a vu, c'est vrai que le budget n'est pas en soi important. Donc, il va tourner autour de 5 milliards de dollars ou 5 milliards et demi, selon moi, en 2015.
Mais, en réalité.
Mais les problèmes de fonctionnement des institutions, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais nos institutions sont budgétivores, toutes les institutions. Écoutez, nous, il fallait que nous fassions une démocratie à la mesure de nos moyens. On ne pouvait pas se permettre le luxe, dans un pays comme le nôtre, d'avoir un parlement bicaméral. Non, à quoi sert le Sénat? Je respecte le travail qui est fait au Sénat. C'est un bon travail, mais le Sénat n'a pas le pouvoir politique pour faire tomber un gouvernement. Donc on ne peut pas se permettre ce luxe-là. Il fallait carrément le supprimer si on veut aider le peuple. On ne peut pas, aujourd'hui, maintenir une institution comme les réserves stratégiques. C'est une institution inutile. Et donc, il faut du courage politique.
Donc, Alain Botoko a raison de soulever la question de la multiplicité des institutions.
Bien sûr, on ne peut pas
dans le contexte actuel, créer ce qu'on appelle aujourd'hui le Conseil économique et social.
Ne serait-ce que même pour ce confinement à la Constitution.
Non, on n'a pas le, on ne peut pas se permettre de multiplier les institutions, parce que les peu de mesures déjà économiques et sociales adéquates, on a du mal à les appliquer. Ce ne sont pas encore une nouvelle litanie des mesures que vont prononcer une nouvelle institution. Non, on gaspille de l'argent. On gaspille de l'argent. Et c'est dommage. C'est dommage. Justement, il y a des efforts à faire dans les rémunérations de nos dirigeants, de nos députés, de nos mandataires publics. Il y a des efforts à fournir là-dessus.
En termes de dégraissage.
En termes de dégraissage, bien entendu.
Les députés, on doit réduire leur
émolument. On doit réduire les députés, bien sûr. Moi, je pense que dans un pays normal, en termes d'émolument, comme dans notre pays, on ne peut pas, quand on me dit que le huissier a 100 et 2000, par solidarité, en attendant que l'environnement social, que la richesse soit créée pour tout le monde, mais tout le monde serre la ceinture. On demande justement aux plus faibles d'entre nous de serrer la ceinture, alors qu'en haut, on ne serre pas la ceinture. C'est injuste, justement. Quand je vois que, en principe, si le huissier a 100 et 2000, en principe, les députés ne peuvent pas avoir 2000, plus de 2000 dollars par solidarité. Ça veut dire qu'on a quand même, on se tient, ça veut dire que si le huissier a 100 et 2000, le secrétaire général a 1000, a combien à peu près 1 million par là. D'une échelle à un baromètre de
1 million de francs.
1 million de francs, un baromètre de 1 à 10. Donc, nous allons dans des proportions, parce qu'il faut se dire que le huissier, lui aussi, il a une famille et il a des enfants à nourrir et à entretenir. Donc, il faudrait qu'on puisse serrer la ceinture. Et là, les Congolais seront attentifs. Ils diront, c'est vrai, il y en a peu, mais tout le monde a serré la ceinture.
Voilà, honorable Koumassamba, il nous reste au moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Israël Moutala propose un certain nombre de solutions pour que le budget puisse répondre au social des Congolais. Notamment, il faudrait créer des institutions à la mesure de nos moyens, en supprimer d'autres, par solidarité, réduire certains salaires, certains émoluments, par exemple, chez vous les députés, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, là où j'ai rejoint mon compatriote Moutala, c'est qu'il a dit il nous faut un outil administratif performant. Et le gouvernement vous dit il faut des réformes profondes, des réformes institutionnelles. Et c'est l'un des chevaux de bataille du gouvernement. Il a dit qu'il nous faut un meilleur circuit. Et le gouvernement est en train de renforcer ce circuit-là, mais c'est un processus qui est en train d'avancer. Par rapport aux institutions, je ne voudrais pas me lancer sur la suppression de telle, parce que ce sont les réformes nécessaires qui dictent l'importance de telle ou telle autre institution. Je voudrais porter un collectif.
Mais ne pas être réaliste, honorable.
Oui, le réalisme signifie réformer les outils qui vont nous permettre de rendre notre budget performant et transparent. Et tout ce qui se passe à ce niveau-là, moi je mets ça sur le compte de la douleur d'enfantement.
Et en guise de conclusion, les Congolais doivent espérer.
En guise de conclusion, parce que lorsqu'on parle du social, la santé fait partie du social. L'énergie,
l'éducation.
Les Coréens se sont développés en formant, commençant par renforcer le capital humain.
Et donc ils doivent espérer.
Et c'est une fois, le gouvernement s'attelle. Merci. Et progressivement, en matière de salaire,
merci,
il y a des efforts qui sont en train d'être fait. Donc
merci.
Il faut y aller, ce n'est pas un coup par un coup de baguette magique.
Merci, merci. Honorable Nzao, conclusion, faudrait-il espérer
Oui.
Quels sont les préalables pour que le peuple congolais puisse espérer?
Oui, le préalable, c'est le changement. N'est-ce pas?
C'est-à-dire
ceux qui nous gouvernent sont là, ça fait plus d'une décennie.
N'est-ce
pas?
Vous voulez parler de l'alternance en tout
cas. L'alternance, il faudrait que, parce qu'ils ont montré leurs limites. Ils nous ont proposé plusieurs choses et ça n'a toujours pas marché. Donc, vous comprenez, vous me comprenez, et les Congolais qui nous suivent comprennent que quand vous avez essayé une, deux, trois fois quelque chose, ça ne marche pas. Vous devez avoir l'humilité, n'est-ce pas, de vous mettre à côté, de laisser le pouvoir aux autres qui ont des projets de société costauds comme les nôtres pour sortir le pays du carcan où il se trouve.
Ismaël Moutala, conclusion.
Ma conclusion, sur le plan social, quand même, je salue, quand même, le budget. Je vois sur la santé, on arrive à plus de 10%, c'est déjà bon. Mais
10% des prévisions.
Oui, 10% des prévisions.
Attendre
l'exécution.
Allez-y,
on va terminer dans quelques secondes. Le vrai problème, c'est d'investir dans le budget, qu'on puisse mettre un accent sur le volet investissement. Investir, par exemple, pour la province orientale, dans la cimenterie. Merci. Investir pour le Kassai, par exemple, en la relance de la Niba. Bukangalo, c'est une bonne chose.
Merci.
Le barrage de Katende. Bref, dans les infrastructures qui vont créer la richesse.
Merci, voilà. Monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Réalisation Guy Maté, Berry Franklin Ouchaka. Mise en onde Sylvain Matundu et Patrick Kiasongwa. Supervision Julien Nyamouini. Présentation et coordination Alain Roumouchige. Au revoir.